franceinter.fr.
Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, La loi Neuwirth, un accouchement difficile, de Caroline de Kergariou. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. 1920. Au sortir de la guerre 14-18, soucieuse de repeupler la France, l'Assemblée nationale adopte une loi qui réprime au même titre avortement et contraception. Cette loi n'aura pas l'effet attendu. La population française refuse obstinément de s'accroître. Pourtant, la loi a été rendue plus sévère encore au fil des années, jusqu'à Vichy, qui en 1942 fait de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État, passible de la peine de mort. 42, c'est aussi l'année où un jeune Français, Lucien Neuwirth, décide de rallier Londres et le général de Gaulle. Il a 18 ans, l'âge des premiers émois amoureux, à lui, les petites Anglaises.
Qui voilà ? Notre petit Lucien, Lulu le joli cœur. On t'attendait plus, mon vieux. Je croyais que t'avais un rendez-vous with a petite brunette.
D'abord, elle est rousse, c'est une Irlandaise. Et puis, elle devait reprendre son poste à la batterie de Saint-Paul.
Irlandaise ? J'imagine que tu vas devoir attendre de passer devant monsieur le curé.
Pas du tout. Figure-toi qu'elle avait des comprimés de ginomine.
Comprimés de gino quoi ?
D'abord un drink, et je te dirai tout.
Un verre pour mon excellente amie Navire ! Et que ça saute ! Alors, des comprimés de quoi ?
De ginomine. Tu vois ? Effervescent en milieu humide.
À part le climat détestable de ce pays, quel rapport avec une partie de jambes en l'air ?
Et spermicide ? Avec cette pilule, aucun danger d'avoir un bébé.
Aucun danger d'avoir un bébé ? Et même si tu fais l'amour au mauvais moment ? Tu te fiches de moi ? Ça n'existe pas un truc pareil, on saurait.
Peut-être pas en France, mais les GI en ont plein leur pactage.
Quand je pense que ma femme m'oblige à faire ceinture tant qu'on n'a pas les moyens d'avoir un petit troisième ? Eh, dis Lulu, tu pourras pas lui en demander des pilules à ta copine ?
Lucien Neuwirth devient vite Lulu la pilule pour ses camarades de la France libre qu'il ravitaille généreusement en ginomine. Après la guerre, revenu chez lui à Saint-Étienne, il devient adjoint au maire. En charge des affaires sociales, il est vite confronté à la détresse entraînée par un enfant non désiré. Jusqu'à cet instant, le jeune homme ignorait tout de la loi de 1920. Dès lors, il se promet de la faire modifier. En attendant, les couples désireux de maîtriser leur fécondité n'ont à leur disposition que les méthodes dites naturelles.
Daniel, ma chérie, viens danser.
J'ai pas encore terminé ma vaisselle.
Oh, mon diable, la vaisselle, viens, je te dis. J'ai envie de te prendre dans mes bras.
Michel, c'est pas encore la bonne période du mois pour être romantique.
Romantique ? Comment être romantique avec tous ces calendriers, ces graphiques, ce fichu thermomètre ? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que ta première pensée est pour moi ? Ton mari que tu aimes et qui t'aime ? Non, ta première pensée est pour ce fichu thermomètre.
Je pense à nous deux. Tu n'as pas encore fini tes études. On habite une chambre. Comment on pourrait avoir un bébé dans ces conditions ? Quand tu serais médecin, par contre.
Voilà bien les femmes. J'ai envie de danser un slow avec toi. Et toi, tu me parles boulot, immobilier, argent. Est-ce que tu peux être matérialiste, ma pauvre Danielle ?
Tu es trop injuste à la fin.
Choqué par un cas d'infanticide, le docteur Marie-André Lagroua-Veil-Allais fonde en 56 Maternité Heureuse. Elle veut prévenir les drames de l'avortement en informant sur la contraception. De ce seul fait, elle tombe déjà sous le coup de la loi de 1920, mais elle ira plus loin encore en procurant du matériel anticonceptionnel à ses adhérentes. L'une d'elles se souvient « Je me revois dans le bureau de poste en train de passer ma commande contre remboursement à un laboratoire du Royaume-Uni. Je ressentais le frisson de la transgression. » 1956 est aussi l'année où la première pilule contraceptive est mise au point aux États-Unis. En France, Lucien Neuwirth est élu député UNR en 1958. Il peut désormais se lancer dans son combat contre la loi de 1920. Il n'est pas le premier. En tout, 11 projets de loi allant dans ce sens seront déposés au fil des années, sans succès, car la France est farouchement nataliste.
Non seulement cette loi est inefficace, mais en plus c'est une mauvaise loi.
Comment ça une mauvaise loi? Déjà que la France est sous-peuplée, si en plus on encourageait les gens à avoir moins d'enfants?
Une loi qui n'est pas appliquée est une mauvaise loi. Et la loi de 1920 n'est pas appliquée. C'est impossible. Il y a beaucoup trop de contrevenants. Oui, une fois de temps en temps, le couperet de la justice tombe sur un médecin avorteur, pour faire un exemple. Et pendant ce temps-là, des milliers de femmes continuent à se faire charcuter dans les cuisines et en meurent.
Ne me dis pas que tu veux légaliser l'avortement.
Si elles avaient accès à la contraception, ces femmes, au lieu de mourir, ce qui n'aide pas à repeupler la France, elles auraient des enfants quand elles se sentiraient prêtes à en avoir.
Avec la contraception, la population française va croître, tu penses?
Absolument. Ces femmes ne seront plus tentées d'avorter, voilà notre but. Assez de morts, de mutilations, de stérilité dû au manque d'hygiène. Et la France va se remplir de bébés désirés, de familles heureuses.
Tu rêves, Le Wirth. Celui qui changera cette loi n'est pas encore né. Imagine le général autoriser la pilule, alors.
Dès 58, Lucien Le Wirth s'est rapproché de Maternité Heureuse, qui devient en 1960 le planning familial. Il fait ainsi la connaissance de Pierre Simon, médecin et franc-maçon, qui préside le collège médical du planning, chargé de former les médecins à la contraception. En toute illégalité, bien évidemment, et en violation des consignes du Conseil de l'Ordre, qui déclare en 62 « Le médecin n'a aucun rôle à jouer et aucune responsabilité à assumer dans l'application des moyens anticonceptionnels ». Lucien Le Wirth avait raison de souligner que la loi de 1920 n'était pas appliquée. Elle est aussi subtilement détournée.
Mon petit cœur aurait un petit peu de vague à l'âme. Pourtant, toi, on t'aime. Je t'aime, Daniel.
Moi aussi, je t'aime. Je suis tellement fatiguée. Si tu savais, Patrick commence à faire ses dents, le pauvre biquet. Il n'arrête pas de pleurer. Et Isabelle est tellement jalouse depuis sa naissance qu'il faut la surveiller en permanence. Sinon, elle l'assassinerait. Elle est infernale. J'en peux plus.
Pauvre chérie. Tu as besoin d'un petit câlin.
C'est pas le moment des câlins, tu sais très bien. C'est jamais le moment des câlins, d'ailleurs. Quelques jours par mois, à peine. C'est pas une vie.
Je crois que t'as un cycle très irrégulier.
Non, je suis réglée comme une horloge.
Non, très irrégulier, je disais. Et justement, je viens d'entendre parler d'une spécialité à base d'estrogène, qui est particulièrement indiquée dans ce cas. Je vais donc te la prescrire dès demain. Et tu n'auras plus aucun souci de ce côté-là.
Mais je ne suis pas malade. Qu'est-ce que tu veux me donner?
La pilule, Daniel. La pilule.
La pilule pouvait en effet être prescrite à des fins thérapeutiques, comme lutter contre la stérilité. Quant à l'avortement légal en Suisse ou en Angleterre, il évite aux femmes qui en ont les moyens l'aiguille à tricoter et l'arrière-cuisine. La loi de 1920 ne s'applique donc dans toute sa rigueur qu'aux plus démunis. Lucien Le Wirth n'est pas le seul à penser qu'il s'agit d'une mauvaise loi. Au cours de la campagne pour les présidentielles de 1965, un candidat promet de l'abroger en cas de victoire. Il s'agit de François Mitterrand. Sur le moment, De Gaulle est très choqué par cette proposition. Pourtant, Lucien Le Wirth ne désespère pas. Un proche du général, Alexandre Sanguinetti, ayant accepté de s'entremettre.
Alors, tu l'as vu? Je suis pressé, mon vieux. J'ai des coups de fil à passer.
Sois chez Le Wirth. Tu sors bien d'Élysée, non?
C'est bon.
Le général est d'accord pour légaliser la contraception? J'aurais jamais cru ça.
J'y croyais pas trop non plus. Il disait pas un mot, il me laissait parler et parler. Il arrêtait pas de plier et déplier ses grandes jambes sous son bureau.
Ah ben je vois, le moyen idéal pour déconcentrer son interlocuteur.
Finalement, j'avais sorti tous mes arguments. Alors en désespoir de cause, je lui ai dit qu'après le droit de vote, il était temps de donner aux femmes le droit de maîtriser leur fécondité. Après tout, c'est la leur. Et là, gros silence. Et puis il a enfin ouvert la bouche.
Et ?
Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Il a dit...
Vous avez raison, monsieur Neuwirth. Transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez.
Alexandre Sanguinetti ne s'est pas directement adressé au général de Gaulle. En effet, Pierre Simon rapporte que peu de Français savent sans doute que l'une des étapes de notre longue marche, la plus décisive peut-être, une dame très pieuse et secrète aiderait à la franchir. La dame, c'est Yvonne de Gaulle. Dans ses entretiens avec Michel Thoriac, l'amiral relate que ses parents en ont discuté ensemble, mais entre quatre yeux. Sa mère concevait que la pilule puisse éviter des drames dans certains cas. En tant que mère d'un troisième et dernier enfant trisomique, on conçoit que Madame de Gaulle savait de quoi elle parlait. Maintenant qu'il a obtenu son feu vert, Lucien Neuwirth peut commencer à auditionner biologistes, démographes et personnalités représentatives des principaux courants religieux. Parmi ces derniers, le père de l'Estapie, un jésuite qui, en compagnie du docteur Charles Randu, a créé en 1961 le CLER, C-L-E-R, Centre de liaison des équipes de recherche, association destinée, même si son nom ne l'indique guère, à accompagner les couples dans la planification naturelle des naissances. L'apparente neutralité de cette mission vole vite en éclats quand on lit dans la documentation du centre qu'elle s'appuie sur une donnée primordiale actuellement acceptée de tous, l'homme se découvre et se définit par ses relations personnelles aux autres et par sa relation personnelle à Dieu. Quant au Conseil de l'Ordre, il reste hostile à la contraception.
Daniel, il faut que tu écoutes ça.
Je suis en train de repasser.
Tu repasseras plus tard. C'est trop drôle. Le planning nous est venu d'Amérique comme le racketing et le kidnapping. C'est beau, non ? Aussi suis-je amené à former le vœu de ne plus être là pour voir ce qui se passera quand les peuples gavés de pilules et ravagés par les contraceptifs se trouveront en présence de milliards de jaunes débordant de leur continent. Il sera trop tard pour revenir à la loi de 1920.
Quel torchon es-tu encore en train de lire ?
Un torchon ? Le bulletin du Conseil de l'Ordre de la Seine ? Je trouve bien sévère, ma chérie.
Les médecins sont contre, les prêtres sont contre. Espérons que Vatican II va changer tout ça.
En effet, les catholiques acceptent de moins en moins la doctrine de l'Église en matière de régulation des naissances. Paul VI nomme une commission spécialement chargée d'examiner la question. Y participent, entre autres, le père de l'Estapie et le docteur Randu, à l'origine du clerc. En attendant, la bataille n'est pas encore gagnée sur le terrain de la loi. De nombreux députés s'inquiètent de la nocivité de la pilule qui pourrait entraîner, sait-on jamais, des malformations jusqu'à la cinquième génération. Ils craignent aussi de voir les Français, surtout les Françaises, pris d'une véritable frénésie de débauche, laquelle, selon le président de l'Académie des sciences, pourrait les mener à la prostitution. De son côté, Jean Foyer fulmine contre la fornication rationalisée par la contraception, l'abominable exploitation de tout ce qu'il y a d'animal et de porcin dans l'âme humaine. Mais c'est le député Jean Coumaros qui nous révèle inconsciemment à quel endroit le bât blesse en réalité.
Calme. La parole est au docteur Jean Coumaros.
Il est regrettable qu'un tel projet ne puisse être discuté à huis clos, comme aux assises, quand il s'agit d'affaires de mœurs. Si les couples doivent attendre le moment qui leur semble favorable pour procréer, nul doute que les familles nombreuses deviendront de plus en plus rares. Les enfants, mesdames, messieurs, ne sont pas toujours engendrés par la réflexion et la raison, mais dans un élan d'amour irrésistible. Or, avec la pilule, ces effusions périront dans le néant. D'autre part, les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant en absorbant la pilule, même à leur insu? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde. Et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile. Mais sommes-nous convaincus que cette semi-castration chimique des femmes n'engendrera pas des troubles organiques et psychiques? De grandes sommités médicales ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Il faut laisser à l'amour son mysticisme et sa noblesse. La pilule va encore favoriser davantage les amours illicites et ébranler les assises de la famille. Ma conscience m'ordonne de pousser un cri d'alarme et d'angoisse, même si je ne suis qu'une voix clamant sin deserto.
Ces messieurs craignent en fait de perdre le pouvoir. Jacques Médecin le confirmera à son tour lors des débats de la loi sur l'avortement. « Je ne peux pas admettre l'idée que la loi fasse de la mère la seule et unique responsable des enfants à naître. Adieu la liberté d'engrosser Bobonne sans lui demander son avis. » Lucien Neuwirth, surnommé l'Immaculé Contraception ou le Fossoyeur de la France, doit retirer sa fille de 13 ans de l'école privée où elle fait ses études. Des parents d'élèves exigent son départ, craignant qu'elle ne révèle à ses camarades certaines choses de la vie. L'aller et retour de la loi avec le Sénat offre l'occasion à certains de ses membres de demander un recours contre le député comme malfaiteur public et même qu'il soit traduit en haute cour. Enfin, la loi est votée le 28 décembre 1967 à main levée.
Bravo, ta loi est passée, tu dois être content.
Elle est passée, oui. Mais content? Comment je pourrais être content? Ils me l'ont complètement sabotée, cette loi.
Le Sénat t'a contré, d'accord, mais ils sont encore plus conservateurs que nous.
M'accuser de mettre des petites filles sur le trottoir?
Ah, il ne faudra tout de même pas que l'on puisse parler de la pilule de la jeune fille.
Résultat, celles qui en ont le plus besoin n'auront pas droit à la pilule.
Non, mais tu trouves normal, toi, qu'une mineure aille s'envoyer en l'air à droite ou à gauche?
On dirait que tu n'as jamais eu 20 ans.
Mais j'étais pas une jeune fille.
Et donc, tu ne risquais pas de te retrouver fille-mère? Voilà pourquoi je voulais que les mineurs, même celles de moins de 18 ans, aient accès à la pilule sans avoir à demander l'autorisation de leurs parents.
Je me demande bien quel parent serait assez perverti pour donner une autorisation pareille.
Et des carnets à souche, comme pour les toxicomanes. C'est honteux!
Le Vatican n'a pas encore parlé. Cela ne tarde pas. En plein juillet 68, Paul VI publie son encyclique « Humanae Vitae », résultat des travaux de cette commission qu'il avait nommée spécialement et dont une majorité s'était exprimée dans la presse en faveur de la pilule. Humanae Vitae, définissant un concept de paternité responsable qui nie complètement la participation de la mère, condamne la contraception artificielle en des termes rappelant Jean Coumarosse. On peut craindre que l'homme, en s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, n'en vienne à considérer la femme comme un simple instrument de jouissance égoïste. Que s'est-il passé? On sait que le cardinal Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, appartenait à la minorité de la dite commission, cette minorité dont la vie l'a emporté. Néanmoins, les catholiques ferventes n'ont aucun souci à se faire dans l'immédiat. Leur âme immortelle ne risque pas la damnation éternelle, car une loi n'est rien sans décret d'application. Or, ceci tarde. Le docteur Benoît demandera au ministre concerné, je cite, « si le retard apporté à l'application des décrets prévus par cette loi ne serait pas en rapport avec la prise de position de l'Église catholique, qui se traduit dans les faits par la parution de l'encyclique Humanae Vitae ».
Thank you. Enfin, ils sont passés. C'est pas trop tôt.
Quoi donc, mon chéri ?
Les décrets d'application. Les médecins vont enfin pouvoir prescrire la pilule au grand jour. Au bout de 2 ans, tu te rends compte ?
Avec Madame Dienesch comme secrétaire d'État à la santé, ça t'étonne ? Elle est catholique pratiquante.
Nous aussi, on est catholiques.
Oui, tiède. Regarde Marie-Christine, ma cousine. Elle, elle a arrêté la pilule depuis que Paul VI a dit qu'il était contre.
Ah, c'est pour ça qu'elle vient plus me voir.
Je croyais qu'elle avait changé de médecin.
Elle attend un bébé pour cet été.
Le 5e.
Eh oui.
Malgré le premier décret d'application, à l'automne 70, aucun contraceptif n'est encore autorisé. Lucien Neuwirth parle de sabotage délibéré. Seul en contradiction avec la volonté de la loi, une puissance administrative a bloqué la préparation et la publication des décrets d'application. Cela signifie accepter les pressions de l'obscurantisme drapé dans ses tabous, ses inhibitions et ses contradictions, dit-il. Marie-Madeleine Dienesch, puis Jean Foyer, nommé ministre de la Santé en 72, auront tout fait pour retarder la mise en œuvre d'une loi que le ministre, catholique fervent, qualifiait de loi scélérate. Après la commission Marcellin de 65, un nouveau rapport sur la dangerosité de la pilule est commandé en 70 à l'INSERM, qui évoque les observateurs scrupuleux et hyper scrupuleux qui ont observé, pour ne pas dire attendu, les incidents. Les derniers décrets d'application datent de 1972, soit 5 ans après le vote de l'Assemblée. Car de sourdes résistances à la contraception sont toujours à l'œuvre un peu partout au sein de l'État. En 1974, Michel Poniatowski, le nouveau ministre de la Santé, exclut le planning familial du tout nouvellement créé Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, à cause de son activisme pro-avortement. Il n'en est pas de même du clerc, qui est même reconnu d'utilité publique. Arrive le 17 janvier 1975.
Patrick, baisse un peu cette musique de sauvage.
C'est Isabelle qui écoute de la musique.
Isabelle ? Ah bon ?
T'as vu la loi sur l'IVG ? Elle est passée finalement.
Ouais.
Sacrée bonne femme, cette Simone Veil.
Faut dire qu'on a bien travaillé avec le MLF.
Toi au MLF, j'arrive pas à m'y faire.
Ouais.
Mais n'oublie pas notre manifeste des 331.
Ah, mais bien sûr, mon chéri. Vous avez été très courageux, toi et tes confrères. Reconnaître avoir pratiqué des avortements quand ça pouvait vous mener devant les tribunaux. Au fait. Est-ce que tu pourrais faire une ordonnance de pilule pour Isabelle ? Je crois bien qu'elle a un petit ami.
La pilule ? Pour Isabelle ?
Mm.
Mais tu n'y songes pas, elle n'a pas 17 ans.
Mon chéri, il y a une autre loi qui vient d'être votée, sur la contraception. Depuis le 4 décembre dernier, les mineurs y ont accès, et gratuitement encore. Alors tu vois, soit tu fais une ordonnance à ta fille, soit elle ira voir ailleurs.
Isabelle, c'est un bébé. Elle n'a pas envie de coucher avec des hommes, hein.
La loi du 4 décembre 1974 sur la contraception est passée relativement inaperçue au milieu du battage médiatique suscité par le vote de la loi Veil un mois plus tard. Elle est cependant essentielle, puisqu'elle corrige les défauts dont la loi Neuwirth s'était trouvée entachée. Ainsi, elle accorde le droit à la pilule aux mineurs et instaure le remboursement des contraceptifs par la Sécurité sociale. Par ailleurs, la loi Veil marque un tournant pour l'Église. À cette date, nous dit Jean-Pierre Delannoy dans son livre « Les religions au Parlement français », la loi civile prend désormais de la distance, dans un domaine essentiel pour la morale catholique, avec les principes juridiques fondés sur cette morale qui inspirait la législation française antérieure à 1975. L'Église catholique ne jouit plus, aux yeux des parlementaires, d'une autorité institutionnelle. Le même auteur nous relate que les religieux, auditionnés lors de la discussion sur la loi relative à l'IVG, consacrent la plus grande partie de leurs propos à expliquer selon quelles orientations, d'après eux, le législateur devrait exercer les compétences qui relèvent de sa responsabilité. On imagine comme les députés ont dû apprécier qu'on leur dise comment faire leur travail. Manifestement, au bout de 70 ans, l'Église n'avait pas encore intégré toutes les conséquences de la loi de séparation de 1905. L'État, peut-être pas non plus, puisque le clerc, qui a fourni des animateurs pour l'éducation sexuelle dans les lycées, existe encore aujourd'hui. Pendant que ferme de nombreux centres du planning familial, il est non seulement habilité comme organisme de formation des conseillers conjugaux et familiaux, mais également en charge d'entretien pré-IVG. Quant à la contraception, il n'enseigne que les méthodes dites naturelles. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, la loi Neuwirth, un accouchement difficile de Caroline de Kergariou, avec Laurent Horry dans le rôle de Lucien Neuwirth, Nicolas Tarin, Michel Bonpoil, Corinne Juresco, Jean-Gabriel Nordman et Patrick Caplan. Bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan, prise de son, montage et mixage Philippe Bredin et Bastien Varigaud, assistante à la réalisation Cécile Lafont, réalisation Christine Bernard-Sugy. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.